Maintenant, on dit Terre d'Oc est née RSE native. C'est vrai que Valérie et Patrick, ils avaient ça dans le sang, et tous les salariés de Terre d'Oc ont toujours ça dans le sang. C'était inconcevable chez Terre d'Oc de faire autre chose qu'un produit bio.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Dans cet épisode, je reçois Laure Vincent, directrice générale de Terre d'Oc, une entreprise spécialisée dans les produits de bien-être et connue notamment pour sa gamme de thé. Alors je suis vraiment ravi de vous proposer cet épisode parce que ça fait un moment que je suis les actions de Terre d'Oc et 2 ans après son passage en société à mission, il y a encore plus de choses à dire. Mais je suis ravi également parce que l'échange avec Laure est passionnant. On plonge dans l'univers du thé, on en apprend un peu plus sur sa fabrication, de la production aux infusettes dans vos tasses, mais surtout Laure raconte les engagements de l'entreprise depuis sa création en 1995, notamment sur le bio, sur la mise en lumière du travail des femmes, ou encore sur le travail avec des petits producteurs. On a également abordé pas mal d'éléments de gouvernance puisque Terre d'Oc est détenue par Nature et Découverte, mais aussi parce que l'arrivée de Laure en 2021 a coïncidé avec le départ de Valérie Roubaud, une des cofondatrices, passation qui s'est faite presque dans une logique de transmission. Et c'est dans ce contexte que le passage en société à mission a d'ailleurs eu lieu, pour pérenniser un projet et des valeurs, mais également pour organiser dans un cadre unique tous les engagements, labels et certifications de Terre d'Oc, et il y en a beaucoup. Et quand on en arrive à parler du retour de la production de la pistache en Provence et de la croisière s'amuse, vous pouvez vous douter qu'on a passé un moment de pure authenticité. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est que Laure s'inscrit dans une volonté de partage et d'ouverture sur l'expérience de Terre d'Oc. Et d'ailleurs, si vous voulez prolonger l'échange avec elle, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn, elle sera prête à vous répondre. J'en ai fini pour cette intro et je laisse place à notre échange. Bonne écoute.
Bonjour Laure.
Bonjour Vivien.
Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de podcast sur Terre d'Oc. Que vous dirigez depuis quelques années. On y reviendra dans quelques instants, mais ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que ça fait quelques années que je suis Terre d'Oc et que je vois un petit peu au travers de certaines de vos communications ce que vous pouvez faire en termes d'engagement et dans le cadre de la société à mission. Et c'est vrai que je me suis dit que là maintenant que vous avez passé votre audit avec réussite, c'était un bon moment aussi pour vous écouter et avoir un petit peu votre retour d'expérience sur la société à mission. Mais avant cela, petite introduction de vous. Donc je vous laisserai bien évidemment corriger, amender, ajouter des éléments qui vous paraissent utiles. Donc Laure, vous vous définissez vous-même sur votre profil LinkedIn comme une femme de tête et de cœur. Et je trouve que ça correspond assez bien à ce que j'ai pu trouver sur vous. Je crois que vous avez fait à peu près tout ce qui est possible et imaginable dans l'agroalimentaire. Une grosse carrière quand même dans l'agroalimentaire avant de prendre votre poste chez Terre d'Oc aujourd'hui, avec une petite dominante quand même dans des postes de marketing. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière avant de rejoindre Terre d'Oc justement chez Autogrill, où vous avez fini comme directrice commerciale France. Et dès votre arrivée chez Terre d'Oc en 2021, vous avez contribué au passage de l'entreprise en société à mission. On reviendra justement aussi sur cette dimension-là qui est intéressante. Et de ce que j'ai pu voir, vous semblez parfaitement à l'aise pour tenir la droite ligne de l'entreprise en matière de responsabilité et d'engagement. Ce qu'on va le voir, Terre d'Oc est de très très longue date en fait une entreprise très engagée sur les questions de développement durable. Est-ce que vous souhaiteriez corriger ou ajouter des éléments?
Non, c'est ça. Vous avez bien relevé ce qu'il y avait dans mon profil LinkedIn. Oui, j'aime bien me définir comme une femme de tête et de cœur. De tête parce que, bon, effectivement, j'ai eu divers postes et j'aime bien les challenges, j'aime bien les amener plus loin, voilà. Et de cœur parce que, en général, dans tous les postes que j'ai occupés, je le fais avec le cœur. C'est très important pour moi de me sentir bien dans mon travail et bien avec les équipes avec qui je travaille. Et voilà, et j'y mets beaucoup de passion, en fait. J'ai tous les jobs que j'ai faits, il y a toujours eu de la passion dans tout ce que j'ai fait, dans mon évolution. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime bien me définir comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, beaucoup d'alimentaire, bon, en marketing, pas mal, en business développement aussi, beaucoup, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, le développement commercial. Voilà, non, vous avez bien résumé.
Je vous propose qu'on commence par une date qui est assez clé. Donc, Terdoc a 25 ans, donc ça fait une belle tranche de vie.
Un peu plus, 28 ans en fait. Ouais, elle a été créée en 1995.
Ouais, autant pour moi, voilà. Alors. 28 ans, donc ça commence à faire une belle tranche de vie. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour les personnes qui connaissent pas forcément Terdoc, peut-être 2-3 dates clés, que ce soit des passages charnières, des rebonds, des succès, pour comprendre un petit peu l'entreprise que Terdoc est aujourd'hui?
Tout à fait. Alors, ben donc, elle a été créée en 1995. Par deux fondateurs, Valérie Roubaud et Patrick Lyons. C'était deux anciens de l'Occitane qui ont créé Terdoc. Voilà, et en fait, elle est née de la rencontre de Valérie et Patrick avec les fondateurs de Nature et Découverte. Je crois que ça s'est passé dans un petit café en Ardèche où ils ont discuté et c'est parti de là. Et en fait, les deux sociétés ne se sont plus jamais quittées. Et du coup, Valérie et Patrick et Terdoc étaient un peu le grenier à idées de Nature et Découverte. Donc, ils se sont rencontrés en 95, ils ont commencé à imaginer des produits, et voilà. Et ça s'est jamais arrêté. Dès que Nature et Découverte avait un besoin, une idée, ils appelaient Terdoc. Et donc, Terdoc fournissait les produits. Donc, ça c'est le démarrage et l'histoire. Et alors, en date clé, je vais quand même revenir sur des dates où il y a eu les familles de produits aujourd'hui phares de Terdoc. En 2003, il y a eu le thé. En 2005, il y a eu la cosmétique. Et en 2019, il y a eu les huiles essentielles. Ça, c'est pour les familles de produits qu'on continue de fabriquer aujourd'hui. Donc, c'est des dates clés. Après, dans l'histoire de dates clés, les autres dates importantes, c'était en 2017, en fait. Donc, Valérie et Patrick ont décidé de vendre Terdoc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, c'est Nature et Découverte qui a racheté Terdoc, puisque Terdoc était un de leurs premiers fournisseurs. Donc, on est devenu filiale de Nature et Découverte. Voilà. Ensuite, en 2019, il y a eu le rachat de Nature et Découverte par Fnac Darty. Donc, ça, c'était un autre gros changement. Et la dernière date importante pour moi, c'est 2021, et c'est le passage de Terdoc en entreprise à mission.
Sur lequel on reviendra bien, voilà. Évidemment. Et sur plusieurs de ces dates clés également. Alors c'est vrai que Terdoc est beaucoup connu pour ses thés, peut-être plus d'ailleurs que pour les autres. Et je me disais, peut-être pour comprendre un petit peu déjà la philosophie de Terdoc par rapport au thé, on ne se rend pas forcément toujours bien compte de tout ce qui se passe avant l'infusion du thé dans sa tasse. Est-ce que vous nous expliquez le parcours de la plantation jusqu'à la dégustation?
Alors oui, donc alors le thé, ça pousse dans des pays lointains. J'y reviendrai peut-être plus tard. Il en pousse un peu en France, mais ça pousse surtout dans des pays lointains, principalement en Asie. Donc, du coup, le thé pousse dans ces pays-là. Donc, la première étape, c'est les cueilleuses, c'est souvent des femmes en fait qui cueillent les feuilles de thé. Ensuite, elles sont rassemblées dans des gros sacs et amenées dans les usines de transformation de thé. Donc là, le thé, il passe par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le flétrissage. Les feuilles de thé, elles sont amenées dans des grands bacs et on les bouge. Alors vous voyez pas mes mains parce qu'on n'est pas en vidéo, mais on les bouge pour commencer en fait à les faire s'oxyder. Voilà. Ensuite, selon la catégorie de thé, du thé noir, du thé blanc et du thé vert, on peut arrêter l'oxydation. Donc ça, il y a des phases qui peuvent s'appeler le blanchiment, par exemple pour le thé vert, où il passe dans des fours ou des machines à vapeur pour arrêter l'oxydation. Ensuite, on a une phase qui s'appelle le roulage. Donc le roulage, c'est les feuilles de thé, elles sont roulées dans des machines en fait. Comme ça pour continuer à les travailler. Ensuite, il y a toute une étape de tamisage. Alors, il peut y avoir un tamisage, deux tamisages. Au milieu, il y a de nouveau, potentiellement pour le thé noir, des phases d'oxydation. Après, il y a une phase de dessiccation ou de séchage, où on dit aussi torréfaction de temps en temps, où là, le thé, il est séché. Et voilà. Et ensuite, il est conditionné et envoyé dans les différents pays. Ce qui est important de noter dans les usines de transformation de thé, quand on passe donc du coup du champ au sac qui vont être expédiés, c'est que ce thé, à aucun moment, il n'est lavé, il est traité, vous voyez. Donc du coup, je vais insister sur ça parce que pour nous, c'est très important justement de sourcer du thé bio parce que du coup, on est sur du thé où on sait que il n'a pas été traité par
une matière propre. Ouais.
Exactement, pesticide. Voilà. Donc ensuite, une fois que le thé sort de ces usines-là, bah, il est transporté des pays lointains et il nous est ramené donc pour Terre d'Oc à Fos, à Marseille. Voilà, on l'amène ensuite chez nous, chez Terre d'Oc, à Villeneuve. Donc, Terre d'Oc, c'est une entreprise qui est basée dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, donc, il y a plusieurs possibilités. Soit le thé, on l'a sélectionné et on ne souhaite pas l'aromatiser et on va donc le conditionner dans les boîtes de thé. Et là, on va vendre du thé nature. Ou alors, on fait du thé aromatisé. Donc, ça va passer dans notre atelier d'aromatisation. L'aromatisation, c'est comme une espèce de grosse machine à laver, en fait, où on y met le thé et on y met des arômes. Donc, nous, chez nous, bien sûr, les arômes sont tous bio, d'origine naturelle. Et on va créer donc les thés aromatisés. Alors, par exemple, notre dernier thé, le dernier thé qu'on a lancé, c'est un thé blanc qui vient du Népal, auquel on ajoute du poivre du Timoud qui vient aussi du Népal et il est aromatisé avec un arôme naturel de pamplemousse. Voilà. Une fois que le thé il est aromatisé, il sort de cette machine à laver et il va être conditionné, donc soit dans des boîtes en vrac, soit dans des infusettes. Voilà. Et autre particularité de Terre d'Oc, chez nous, il n'est pas conditionné. Sur notre site, sur notre usine de Villeneuve, il est conditionné en fait à 10 km. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et j'ai promis justement à la fondatrice Valérie que je changerai jamais ça. Il va dans une entreprise, dans ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Donc en fait, c'est une entreprise de droit privé qui aide à la réinsertion sociale de personnes en difficulté ou en handicap. Et depuis toujours, Terre d'Oc pour le thé travaille avec cette entreprise, l'a aidé à acheter ces machines et du coup ça développe sur notre territoire l'emploi de ces personnes-là et donc c'est conditionné à 10 km de chez nous. Voilà. Et une fois que c'est fait, les boîtes ensuite partent dans les différents circuits de distribution.
D'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai que de fait on se rend compte des différentes étapes qu'il peut y avoir et en fait on y reviendra, hein. Le thé traverse quand même... pas mal de kilomètres.
J'ai oublié de préciser que le thé arrive des pays lointains en bateau. Oui, si, je vous l'ai dit, ça. Je sais plus. Oui, le thé que des pays lointains arrive en bateau à Fos, à Marseille, et ensuite vient chez nous. Oui.
Et à partir de quand est-ce que Terre d'Oc intervient? Est-ce que vous avez vos propres champs, vos propres plantations, ou vous travaillez uniquement en partenariat avec des cueilleurs, des coopératives, j'imagine que c'est beaucoup de coopératives locales.
Alors, on n'a pas nos propres plantations, mais effectivement, Terre d'Oc, nous, on travaille en direct avec des coopératives locales. Donc, on passe pas par... beaucoup de marques de thé passent par les brokers allemands. Vous savez, c'est très connu, la place d'achat du thé en Allemagne. Donc, nous, on travaille pas du tout comme ça. On travaille en direct dans les petits pays qu'on va sourcer nous-mêmes et donc avec des coopératives principalement. Et en général, on essaie chez Terre d'Oc de sélectionner des coopératives, des groupements de femmes ou des coopératives qui sont menées par les femmes. On va revenir sur les femmes, c'est très cher à Terre d'Oc.
Très très cher à Terre d'Oc.
Et des petites exploitations. Donc par exemple, vous voyez, l'année dernière, je suis partie au Sri Lanka et là-bas, on travaille donc avec des villageoises qui ont des tout petits jardins derrière leur maison et qui cueillent là-bas et puis qui rassemblent le thé dans leur village et puis chaque village ramène le thé à l'usine qui est pas loin. Voilà, vous voyez, nous on travaille en direct avec des petites villageoises, des petits groupements de femmes un peu partout dans le monde. Voilà.
Et il y a une dimension qui est intéressante parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et vous avez utilisé le terme de notre usine.
Oui.
C'est que bah, finalement, un fabricant de thé, c'est aussi un peu un industriel.
Ah, tout à fait. Alors nous, on se considère, oui, bien sûr, comme une entreprise industrielle. Oui, on a des ateliers chez Terdoc. Alors c'est pas l'industrie dans le sens la grosse industrie, parce que on est depuis toujours, on travaille de façon très artisanale. Mais on a plusieurs ateliers chez Terdoc. Donc, on a l'atelier aromatiseur. Et après, donc, tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Terdoc est connu pour le thé, c'est vrai, puisque aujourd'hui, la catégorie de produits qu'on fabrique chez Terdoc, à notre marque Terdoc, c'est principalement le thé. Mais en fait, chez Terdoc, ce qui est moins connu, c'est qu'on fabrique également, jusqu'à présent, on fabriquait pour d'autres marques, des parfums d'ambiance, des cosmétiques et des huiles essentielles. Et du coup, on a décidé de réétendre la marque Terdoc sur ces autres catégories, les cosmétiques, les parfums d'ambiance et les huiles essentielles. Donc en fait, chez nous, dans notre usine, on a aussi un atelier de fabrication pour les cosmétiques, pour les senteurs et des ateliers de conditionnement pour ces catégories-là et aussi pour les huiles essentielles.
C'est intéressant cette dimension, parce que surtout dans le débat actuel, on parle beaucoup de l'industrie en France, de réindustrialiser, etc. En fait, l'industrie, c'est pas que des d'automatisation, des grosses machines, des gigafactories, etc. C'est aussi des entreprises comme Terdoc.
Oui, exactement. On a quelques machines. Donc, comme je vous ai dit, l'aromatiseur, la grosse machine à laver. On a quelques lignes de conditionnement. On a une ligne de conditionnement pour les huiles essentielles, pour faire les petits flacons. On a une ligne de conditionnement pour remplir les vapeaux pour les parfums d'ambiance. Une ligne de conditionnement pour faire des baumes et des beurres au niveau de la cosmétique. Voilà, mais c'est des toutes petites lignes. Et après, chez nous, on continue d'avoir des ateliers où nos salariés, qui sont principalement des femmes, mettent à la main les produits pour faire des jolis coffrets, ou plie à la main, on fait des encens, par exemple, plie à la main des encens dans une jolie feuille de soie, et mettre ensuite dans un packaging. Voilà, ça reste encore très artisanal chez nous.
Tout à l'heure, vous disiez que donc tous les thés étaient bio et que naturellement les arômes étaient aussi des arômes naturels, etc.
Bio.
Ouais.
Bio, c'était très compliqué parce qu'il y a une nouvelle réglementation bio qui est sortie, et donc désormais les arômes naturels bio, il faut qu'ils soient issus du fruit. Par exemple, quand vous voulez faire un arôme naturel bio de fraise, il faut que ça soit issu de la fraise, en fait. Il y a eu tout un travail très compliqué pour les marques de thé de reformulation suite à la nouvelle réglementation bio sur les arômes.
Et par rapport à ces sujets-là, parce que vous, ça vous paraît naturel, mais c'est loin de l'être quand même dans l'univers du thé ou plus globalement dans l'agroalimentaire, d'être en bio depuis si longtemps, parce que ça fait quand même
depuis toujours. Alors oui, hein, voilà, donc Terdoc est maintenant on dit Terdoc est né RSE native. C'est vrai que Valérie et Patrick, ils avaient ça dans le sang, et tous les salariés de Terdoc ont toujours ça dans le sang. C'était inconcevable chez Terdoc de faire autre chose qu'un produit bio ou d'utiliser aujourd'hui. Il y a plein de labels qui existent, divers et variés. À l'époque, je pense que quand Terdoc a été créé, tous ces labels n'existaient pas, mais c'était ancré et naturel, en fait, depuis toujours de faire comme ça, dans un souci de faire le meilleur, de prendre soin des autres, prendre soin de la planète. Voilà, c'était naturel chez Terdoc, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu le site internet, vos différents engagements en matière de développement durable, vous avez un nombre de certifications, de labels, etc., qui pour une entreprise de votre taille, vous êtes une petite cinquantaine de personnes, pourrait paraître presque surdimensionné. Comment est-ce que vous gérez tous ces engagements que vous pouvez avoir sur ce sujet-là? Et est-ce que vous arrivez à le valoriser?
Alors, comme je vous ai dit, c'était vraiment dans les gènes dès le départ. Et ça continue d'être habité par l'ensemble des salariés. Donc, finalement, on fait tout ça assez naturellement. Après, il y a une particularité chez Terdoc qui, moi, quand je suis arrivée, m'a complètement étonnée, séduite et et ça m'a conforté dans le choix que je faisais de venir chez Terre-Doc. Pour une entreprise de 50 personnes, il y a une personne qui est dédiée en fait à la RSE. D'accord? Et donc ça, c'est exceptionnel. Moi, dans le passé, je venais de gros groupes avec des milliers de personnes où il y avait allez, 2-3 personnes qui s'occupaient de la RSE. Et chez Terre-Doc, entreprise de 50 personnes, vous avez une personne dédiée à la RSE. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on garde le cap. Et voilà, donc c'est incarné par tout le monde, mais en plus, vous avez cette personne qui s'occupe de cette partie labellisation. Voilà.
Ouais, ce qui peut expliquer, parce que derrière chacune de ces certifications, labellisation, il y a quand même du reporting. Hein, c'est pour ça que je me posais la question.
Après, il y en a beaucoup chez Terre-Doc. Et donc, du coup, je vais faire la transition. Donc, vous me posiez la question. Finalement, ce qui a rejoint pour moi tous ces labels, c'était l'entreprise à mission. Parce que l'entreprise à mission, d'abord, bon, on a donc quand ça s'est sorti et quand on a commencé à discuter de la passation avec Valérie, la fondatrice, c'était comme une évidence en fait, parce que l'entreprise à mission, pour nous, elle allait rassembler l'ensemble des certifications et l'ensemble de tout ce qu'on pouvait faire en RSE chez Terre-Doc. Donc en fait, on a décidé ensemble de transformer l'entreprise en entreprise à mission. Et finalement, on a pris tous les plans de tous les labels qu'on avait chez Terre-Doc, qu'on a mis tous ensemble, et c'est devenu notre plan d'action d'entreprise à mission.
D'accord.
Voilà.
Alors, on reviendra effectivement sur ces aspects-là, parce que c'est vraiment intéressant. Pour le coup, il y a une vraie continuité par rapport à ce que vous pouviez faire. Il y a peut-être une logique de rationalisation, ou en tout cas de structuration de tous ces efforts, mais on y reviendra. Mais avant cela, néanmoins, sur la partie développement durable, vous disiez effectivement que, vous sourciez des produits, et j'imagine que c'est la même chose dans la cosmétique,
oui.
dans tous les autres segments que vous occupez. Forcément, c'est des produits qui viennent de loin. Et comment est-ce que vous arrivez à réconcilier justement ces enjeux de développement durable, cette notion de voyage lointain que les produits peuvent faire? Est-ce que il y a des tentatives de faire, d'avoir des produits qui sont plus locaux, ou en fait c'est vraiment juste pas possible? Quel est l'état un petit peu des réflexions sur ces sujets?
Alors bon, le thé, c'est donc ça pousse dans des pays lointains. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques tentatives aujourd'hui pour faire pousser le thé en France. Donc il y a des régions un peu pionnières qui sont en train de regarder, comme la Bretagne. Voilà, il y a une association qui s'est créée, l'Association nationale des producteurs de thé français, auquel on a adhéré tout de suite, et on est en lien avec le président qui nous tient informés de tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le thé en France subviendra pas aux besoins. La quantité produite aujourd'hui, c'est impossible. Ça va faire une collection très confidentielle à un moment donné, mais ça peut pas subvenir aux besoins. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On regarde aussi s'il y a d'autres plantes qui pourraient se substituer au thé et être plus locales. Donc effectivement, il y a tout ce qui est tisane. Vous voyez, donc ça, on le développe aussi chez Terre-Doc, et sur les tisanes, on développe nos gammes de tisanes où on essaie de travailler pareil en direct avec des agriculteurs locaux, où on se source sur des plantes locales. Voilà. Mais sur le thé, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas un remplacement en local. Donc après, le développement durable, ça se fait aussi par toutes les autres actions et les autres, on va dire, tous les autres packaging, tout ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise en général pour essayer de diminuer notre impact environnemental. Voilà. Mais à date, le thé, on n'a pas trouvé de solution.
Ouais, non, je...
Mais il y en a qui y travaillent.
Oui, parce que c'est vrai qu'en soi, malheureusement, en plus le thé vient de pays qui sont assez fortement touchés par le réchauffement climatique. J'imagine que il y a des sujets quant à la pérennité parfois, même de certaines plantations à moyen terme. Donc il y a la question de la distance, bien évidemment, mais même de la pérennité de la matière première, quoi, si je puis dire, sur ces sujets-là. Sur le, alors effectivement, en matière de développement durable, il n'y a pas que les aspects environnementaux, il y a aussi les aspects sociaux. Et c'est vrai que pour comprendre TerDoc, c'est quelque chose qui est très très frappant dès le début. Il y a cette question de la place des femmes, qui est même pas centrale. J'ai presque envie de dire, c'est dans l'ADN pur de TerDoc. Comment ça s'explique?
Alors en fait, ben ça s'explique que TerDoc, ça s'est construit par des histoires de femmes. Donc au départ, il y avait bien sûr le fondateur et la fondatrice, mais sur toutes les catégories de produits que je vous ai citées, c'est des femmes. Le thé, c'est cueilli par des femmes. Quand on fait de la cosmétique, par exemple, on utilise du beurre de karité, c'est produit par des femmes, et on travaille avec des groupements de femmes. Et après, chez TerDoc, la particularité, c'est que sur toute la chaîne, en fait, il y a que des femmes. L'acheteuse, par exemple. Les achats de thé, pareil, c'est un métier très masculin. Les brokers en Allemagne, nous, c'est des femmes qui vont, on va sourcer directement dans les pays. Dans nos ateliers, il y a que des femmes, c'est historique. Nos designers, on a une équipe aussi de designers en interne, c'est des femmes, c'est des designers, voilà. L'histoire de l'entreprise, elle s'est faite comme ça. C'est pas une entreprise qui s'est voulue féministe, mais elle s'est faite avec des femmes. Et du coup, quand je suis arrivée, vraiment, j'ai trouvé une entreprise, c'est justement parce qu'on était des femmes qu'il y avait ce regard bienveillant, en fait, envers les autres, envers la planète, et voilà. Et donc, du coup, c'est un trait qu'on a accentué parce que c'était vraiment un point de différenciation incroyable de TerDoc. Et voilà. Et donc, du coup, ça s'appelle TerDoc, né du talent des femmes.
Oui, exactement. Oui. Et je me pose la question parce que vous avez effectivement, avant de venir chez TerDoc, vous aviez vu quand même pas mal d'entreprises, de grands groupes, etc. Mmh. Vous, quand vous avez pris votre position de directrice générale, comment est-ce que vous avez abordé cette question de aussi centrale que, ben, en fait, les femmes sont hyper présentes dans l'entreprise, hyper présentes dans l'histoire de l'entreprise, hyper présentes dans tout l'écosystème de l'entreprise. Parce que c'est pareil sur les clients, j'imagine que c'est beaucoup de clientes. Donc, est-ce que ça a joué sur votre positionnement en tant que dirigeante? Comment vous avez abordé ce sujet?
Ben, en fait, donc c'était quelque chose qui était émanant de TerDoc. Et donc, quand je suis arrivée, bon, notamment avec Audrey, la responsable marketing, on a beaucoup travaillé sur le positionnement de la marque. D'accord? Et donc, du coup, c'est vrai qu'on était une marque bio, une marque éthique, puisqu'on travaillait déjà depuis des années en commerce équitable et on faisait attention à tout ce qu'on faisait d'une manière générale. Et il y avait ce trait-là. Et donc, du coup, ce qu'on a vu ensemble, c'était que on avait envie de le tirer un petit peu plus et de communiquer sur ça, en fait. Donc, on a commencé à expliquer tout ce travail sur les femmes. Et après, ça s'est aussi concrétisé dans notre entreprise à mission parce que on a pris un engagement ferme sur le soutien de projets de femmes dans notre entreprise à mission. Donc, ça se concrétise comment? C'est que après, derrière tout ça, donc, on va soutenir des projets féminins en général. Donc, on s'engage, en fait, chaque année à d'abord reverser un pourcentage de notre chiffre d'affaires, je vais vous expliquer, via 1% for the Planet, si on peut, à des associations de 1% for the Planet qui sont menées par des femmes ou pour des femmes. Et puis après, on soutient tout au long de l'année des projets féminins. Donc, par exemple, l'année dernière, on a soutenu un joli projet local en Provence qui s'appelle le Gynécobus. Vous voyez, c'est un ancien chef de maternité qui s'était aperçu que les femmes dans les petits villages du Haut-Var et bientôt des Alpes-de-Haute-Provence n'avaient pas accès aux soins gynécologiques. Et donc, du coup, qui a monté un bus avec tout le matériel gynéco pour amener le bus dans ces villages. Donc voilà, donc c'était un projet génial. On a dit, bon, ok, on le soutient. Avant que j'arrive, c'était déjà ancré, hein. Il y avait aussi le soutien à un autre projet qui s'appelle les monocyclettes. C'est Angélique, en fait, qui a créé une ligne de lingerie pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont décidé de ne pas forcément se faire reconstruire. Et donc, du coup, c'est de la lingerie asymétrique. Voilà, il y a tous ces projets-là pour aider les femmes en général qu'on essaie de soutenir chez TerDoc. Et puis pas que, il y a aussi les femmes de l'entreprise. Donc ça, oui. Et par exemple, on fait aussi des projets pour elle. Par exemple, l'année dernière, on a décidé d'offrir des jours pour la garde d'enfants malades. Vous voyez ? Voilà.
Et donc, en fait, c'était tellement ancré dans l'ADN de l'entreprise que quand vous êtes arrivé, en fait, c'était...
Voilà, c'était naturel. Moi, j'ai juste eu peut-être le regard neuf de dire, il faut qu'on le dise, en fait. Parce que c'est génial tout ce que TERDOC fait pour les femmes. Il faut qu'on le dise et il faut qu'on aille un petit peu plus loin en l'inscrivant dans nos statuts et en sélectionnant... notamment via le 1% for the Planet, des associations qui étaient déjà environnementales, mais si possible aussi environnementales et portées par des femmes ou pour des femmes.
Ok. J'aimerais qu'on décortique une phrase qui est sur votre site internet et que je trouve assez intéressante parce qu'elle elle dit beaucoup de choses sur les engagements de TERDOC. Alors je la cite, hein. Chez TERDOC, nous aspirons à consommer différemment. Nous souhaitons le partage solidaire et éthique de la richesse pour donner plus de sens à l'acte d'achat et mettre l'humain au cœur de notre activité. Il y a une dimension qui est intéressante, vous n'en avez pas encore beaucoup parlé, et c'est pour ça que j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, c'est cette notion de consommation responsable. Comment est-ce que ça se matérialise chez vous ?
En fait, nous, on se dit que si on explique à nos consommatrices et consommateurs ce qu'on fait, en fait, puisque... Vous m'avez expliqué toute la chaîne du thé, mais donc sur toute la chaîne du thé, on fait attention à ce qu'on fait, on essaie de faire attention à l'environnement, à l'éco-conception de nos produits. Voilà, donc l'idée qu'on a, notre vision en fait, c'est d'expliquer comment on travaille et que finalement, une consommatrice qui vient acheter une boîte de thé chez TERDOC, eh ben, elle a conscience de tout ça et donc du coup, son achat devient un acte... solidaire en fait, vous voyez. Et du coup, ce que on a fait, depuis que je suis arrivée, on a justement développé toute cette explication de comment on travaillait. Donc notamment aujourd'hui, via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce qu'on fait on voit sur les réseaux sociaux qu'on a des communautés qui sont les plus engagées par rapport aux autres marques de thé. Donc c'est des gens qui nous suivent, qui sont très engagés vis-à-vis de la marque. Parce que je pense qu'on a expliqué justement toute cette démarche-là. Et donc voilà, donc on pense qu'en expliquant, à leur échelle, les consommatrices qui finalement achètent un produit TERDOC, font aussi un choix de consommation.
D'accord. Est-ce que ça se reflète aussi sur le packaging ?
Alors oui, ça se reflète sur le packaging. Donc, parce qu'on l'explique, et notamment, donc tous nos produits sont... avec le label, la marque 1% for the Planet, d'accord, puisque justement, on reverse pour chaque produit vendu, on reverse 1% du chiffre d'affaires à 1% for the Planet, à des associations environnementales. Donc, ça montre la démarche. Après, on l'explique bien, on ne peut pas tout expliquer malheureusement sur un packaging, on aimerait compliqué. Bien. Mais du coup, il y a bien sûr la référence à notre site internet. Il y a toujours un petit texte explicatif qui explique un peu, mais pas globalement la démarche. D'où l'importance aussi de la communication sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.
Le fait d'avoir décidé d'étendre la gamme TERDOC à des nouveaux produits, vous parliez tout à l'heure, notamment dans la parfumerie, etc. Est-ce que c'est aussi pour mieux contrôler tous ces aspects-là ou c'est encore une autre dimension ?
Non, en fait, là, c'est que TERDOC fabrique ses produits depuis toujours. En fait, TERDOC fabrique des produits de bien-être, en fait. Donc, du coup, c'était pour donner cette notion de bien-être global, en fait, à nos consommatrices. C'est-à-dire qu'on voulait que TERDOC propose des produits à la fois pour soi, pour sa maison, pour son esprit, pour son corps, pour son détendre. Donc, vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment que nos consommatrices, elles se fassent couler un bain. Il y a une bougie qui est sur le coin de la baignoire. En même temps, elles ont une bonne tasse de thé. Et puis, en sortant du bain, elles pourront se faire du bien avec... un baume pour le corps, une huile ou une autre parfum. Voilà, c'était plus dans cette notion de bien-être global qu'on a étendu la marque, mais toujours dans la même démarche. Tous nos produits sont certifiés bio, une attention particulière à la naturalité et à la façon dont on les conçoit et dont on les produit. Ça, ça n'a pas changé notre démarche d'entreprise au global.
Vous disiez parmi les dates clés que l'une d'entre elles, c'était le rachat de Terre-Doc par Nature et Découverte en 2017. Alors j'ignorais l'antécédence qu'il pouvait y avoir dans la relation entre Terre-Doc et Nature et Découverte, en tout cas à ce niveau de proximité-là. Et vous disiez également que, autre date importante, 2019, avec le rachat de Nature et Découverte par Fnac Darty. Vous êtes un petit pousset dans ce groupe. Comment est-ce que vous arrivez à affirmer la singularité de Terre-Doc? Et est-ce que vous disiez tout à l'heure que c'était un peu un laboratoire d'expérimentation? Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors oui, c'est toujours le cas. Enfin, on travaille toujours de façon autonome. Après, on parle tout le temps. Enfin, la proximité entre Nature et Découverte et Terre-Doc, elle a toujours existé et elle continue toujours. Donc, le rachat s'est fait naturellement et les équipes de Terre-Doc parlent chaque semaine aux équipes de Nature et Découverte, notamment pour développer des produits pour Nature et Découverte qui ont le même état d'esprit et le même ADN que nous, si vous voulez. Et après, oui, on est le petit poussé parce que on continue de travailler de façon autonome. Vous voyez, ils nous ont dit oui pour être entreprise à mission. Donc voilà, on a fait l'entreprise à mission. Dans ce cadre-là, eh ben, Nature et Découverte nous a autorisé à le faire, à regarder comment on fait. Et puis 2 ans après, ils nous ont posé des questions. Ils sont devenus eux-mêmes entreprise à mission. Voilà. Alors après, le groupe Fnac Darty, alors ils nous regardent d'encore plus loin, mais on a aussi parlé à la responsable RSE du groupe qui a trouvé la démarche de Terre-Doc, qui est effectivement un petit poussé dans le groupe, et a trouvé ça super, et du coup nous a demandé d'expliquer notre démarche et nous a mis dans le rapport RSE du groupe. Vous voyez, donc on est un petit poussé, voilà. Nature et Découverte nous regarde un peu plus près, Fnac Darty d'un peu plus loin, mais ils sont contents, je pense, de tout ce qu'on fait, quoi.
Mais donc il y a encore ce côté. En tout cas, c'est important d'avoir pu conserver cette forme de d'autonomie aussi sur votre développement et sur le développement de la marque, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le cas quand il y a des rachats de cette nature-là. Alors je vous propose qu'on passe à la partie entreprise à mission. Vous en avez déjà un petit peu parlé et c'est vrai que c'est quand même un peu le sujet central de ce podcast. Donc ça fait 2 ans que Terre-Doc est passé société à mission. Vous avez des engagements qui sont assez forts, vous en avez un petit peu parlé déjà, notamment sur le travail des femmes, mais pas que. Est-ce que surtout vous avez suivi un petit peu au long cours cette démarche-là, avec un peu de recul, est-ce que vous trouvez dans la démarche de société à mission ce que vous pensiez vous trouveriez quand vous vous êtes lancé?
Alors totalement, parce que en fait ça donc comme je vous l'ai expliqué, c'était une courroie de transmission entre la fondatrice Valérie et moi qui venais la remplacer. Donc c'était une façon en fait de aussi ancrer ce qu'elle avait instauré depuis toutes ces années chez Terre-Doc. Et vraiment, c'est super, c'est que c'est devenu la colonne vertébrale de l'entreprise. Donc d'abord, comme je vous l'ai dit, ça a permis de rassembler tous les plans d'action qu'on avait de tous les différents labels dans l'entreprise à mission. Ça a permis de formaliser les choses et du coup de générer encore plus d'engagement de la part des collaborateurs autour de nos piliers d'entreprise à mission et de donner encore plus de sens à ce qu'on faisait. Et ça a permis aussi à tous les collaborateurs de vivre l'entreprise à mission. Parce que dans les labels qu'on avait, c'était souvent plutôt certains services qui étaient concernés. Alors que là, l'entreprise à mission, avec nos 5 piliers qui sont plus globaux que les différents labels, ça permet vraiment de donner à chacun dans l'entreprise une petite part de la brique qu'on vient mettre dans la maison entreprise à mission. Donc, moi, je trouve ça génial. Et puis, ils ont une grande fierté. Ils se le sont approprié. Ils en parlent et tout. Et voilà, c'est venu encore renforcer l'ADN, renforcer l'esprit de cohésion et donner une colonne vertébrale à tout ce qu'on fait.
Il y a un aspect que vous avez un peu évoqué et que je trouve hyper intéressant, c'est la transmission entre la fondatrice et vous. Et je me posais la question de savoir comment vous avez fait justement pour assurer ce lien, cette connexion entre elle qui partait, mais qui voulait aussi, j'imagine, laisser une trace importante, l'ADN dans le projet, et vous qui arriviez. Comment ça s'est traduit dans le projet d'entreprise à mission?
C'est complètement exact. Donc d'abord, avant que j'arrive, c'est avec Valérie qu'on a demandé ensemble à Nature et Découverte, donc notre actionnaire, de nous autoriser à travailler sur le projet. Et ensuite, quand je suis arrivée, ensemble avec Valérie, on a fait tout le travail de rédaction de notre raison d'être avec les salariés. On a organisé plusieurs sessions de travail, plusieurs brainstorming avec les salariés pour définir notre raison d'être. Ensuite, avec Valérie, ça a pris beaucoup de temps pour trouver le bon poids de chaque mot. Voilà, et donc, on l'a fait ensemble pour finaliser la rédaction de notre raison d'être, de nos objectifs sociétaux, sociaux et environnementaux. Voilà, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu aussi réfléchir au comité de mission qu'il allait avoir pour notre entreprise à mission. Donc là, naturellement, moi, l'idée qui m'est venue, c'était que sur notre comité de mission, on a 5 piliers dans notre comité de mission. Je voulais qu'il y ait plus de personnes externes que de personnes internes au comité de mission et aussi que chaque pilier soit un peu incarné par une personne. Vous voyez ? Et alors, naturellement, ce qui s'est passé avec Valérie, ben, c'est que je lui ai dit, il faut que tu sois au comité de mission et que tu incarnes notre engagement femme. Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, elle a accepté. Donc, vous voyez, c'est génial parce qu'elle est toujours là. Elle est dans le comité de mission. Et donc, du coup, quelque part, elle veille toujours à ce que la mission, elle perdure. Voilà. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et il y a cette transmission qui est super.
Vous parliez également tout à l'heure du fait que l'entreprise à mission permettait à toutes les équipes de participer à un engagement collectif, ce qui n'était pas forcément le cas des labels qui pouvaient concerner certains services, mais pas tout le monde. Ça, est-ce que vous avez l'impression que cette appropriation s'est faite naturellement? Est-ce qu'il y a eu des actes particuliers qui ont facilité cette appropriation?
Alors, ça s'est fait naturellement, avec quand même des moments clés. En fait, chez Terdoc, on était, on était labellisé ISO 14001. Donc, dans l'ISO 14001, c'est une norme AFNOR très cadrée, où chez Terdoc, il y avait l'habitude
de la RSE, ouais.
De l'environnement, notamment de tous les sujets environnementaux. Il y avait une culture qui était la revue de direction. C'était une journée dédiée à cette norme-là. Ce qu'on a fait avec l'entreprise à mission, qui a aussi figé les choses et embarqué tout le monde, c'est qu'on fait régulièrement une journée par an où on se pose sur l'entreprise à mission. Là, il y a toute l'entreprise qui est invitée et tout le monde parle de qu'est-ce qu'il a fait pour l'entreprise à mission, qu'est-ce qu'il veut faire l'année suivante pour l'entreprise à mission. Voilà, et puis aussi avec des moments joyeux tous ensemble. Ça permet aussi de faire adhérer tout le monde au processus. Donc ça, c'est une belle journée qui a lieu une fois par an. Et après, pendant l'année, on fait d'autres points vraiment très réguliers avec l'ensemble des salariés pour leur expliquer ce qui se passe. Et du coup, ça concerne tout le monde. Et donc, il y a cette adhésion-là globale, en fait. Je me permets de rajouter aussi que ce que je trouve chouette dans l'entreprise à mission, c'est que nous, on se l'est approprié en définissant des objectifs, des indicateurs, mais du coup, on rend compte aux salariés de ces indicateurs et de toutes ces preuves, en fait. Et donc, ils voient concrètement ce qu'on fait, vous voyez ? Voilà, on a même créé, ça c'est après l'entreprise à mission, des jolis moments dans l'entreprise qu'on a appelés étiquetés, parce que je pense à ça, qui sont une fois par trimestre, on organise un énorme petit déjeuner dans un atelier en bas, dans l'usine, et on parle des sujets un peu éthiques, plus de l'entreprise à mission. Et donc, du coup, on leur donne des preuves et on leur rend compte de ce qu'ils font. Et donc, du coup, ça, c'est super parce que ça embarque tout le monde dans la démarche.
Oui, c'est intéressant parce que c'est souvent une des difficultés pour les entreprises d'embarquer les équipes dans cette démarche-là et de pas faire en sorte que ça soit juste quelques personnes qui sont impliquées, puis le reste reste assez passif et sont juste en train de se dire, bah, pour moi, ça change pas grand chose. Là, il y a une vraie volonté de transparence, sur le sujet, et je trouve que c'est effectivement plutôt bien pensé. Depuis que vous êtes passé société à mission, pour vous, quels ont été les principaux défis à relever, liés à la mission, j'entends?
Ce qu'on a inscrit dans l'entreprise à mission, c'était l'ADN de Terre-Doc quand même. Donc c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et tous les objectifs qu'on s'est inscrits, c'était des objectifs ambitieux, mais qui sont dans tout ce qu'on fait au jour le jour. Comme je leur dis en fait aux salariés, il faut que ça soit la continuité de votre travail et de votre ADN. Vous voyez, que ça soit challengeant, mais que ça soit pas non plus des défis irréalisables ou qu'on n'y arrive pas. Donc, pour l'instant, on y arrive. Je pense que le défi le plus important qu'on va avoir sur l'entreprise à mission, c'est justement une question qu'on a eue du comité de mission, c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer notre développement commercial, en fait, tout en respectant les objectifs de notre mission et notamment tout ce qui est impact environnemental. Voilà. Pour moi, ça va être le plus gros défi. C'est comment est-ce qu'on fait pour allier développement commercial et engagement de notre mission. Je rajouterai un autre point en termes de défis que je vois, en fait, c'est vraiment d'arriver à diminuer notre bilan carbone, nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je pense que ça sera le plus gros défi à avoir quand même dans les engagements qu'on a de l'entreprise à mission.
Là, vous venez de... On va parler un petit peu après de l'audit, parce que c'est toujours un moment important dans la vie d'une entreprise à mission, mais vous venez de terminer ce premier cycle. Alors, vous venez de parler un petit peu justement de cet enjeu de l'empreinte carbone. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui sont vraiment prioritaires que vous n'aviez pas forcément anticipé et que vous souhaitez relever dans le cadre, parce que là, en soi,
alors, dans le cadre de l'entreprise à mission.
Ouais, dans le cadre de l'entreprise à mission.
Je reviens sur ce que je vous ai dit. En fait, globalement, ce qui est difficile aujourd'hui pour Terre-Doc, c'est que bon, dans le contexte, on va dire, du marché. Où nous, on fait des produits qui sont typés plutôt déco, cadeaux, lifestyle. On est vendu chez Nature et Découverte, vous voyez, et on voit qu'il y a une baisse du trafic, en fait, et de la consommation en général dans ces magasins-là. Donc, du coup, qui nous, de notre côté, chez Terre-Doc, vont nous obliger à faire plus de développement commercial pour voir arriver un certain maintien de l'activité et maintien de l'emploi, parce que pour moi, ça, c'est une priorité personnelle absolue, c'est que chez Terre-Doc, je veux assurer le bien-être des salariés, c'est aussi un engagement d'entreprise à mission. Et donc, du coup, c'est ce que je vous dis, c'est en fait, comment est-ce qu'on fait pour trouver des relais de croissance par rapport à une décroissance d'autres clients, tout en assurant que je réponds à mes challenges d'entreprise à mission et à mon impact au global, quoi.
Oui, sacré défi, sacré challenge, parce que c'est... Là, si jamais certaines personnes ne se posaient la question à savoir le lien entre l'entreprise à mission et l'activité de l'entreprise, là, très clairement, il est absolument central, en fait, hein.
Oui, et c'est une question notamment Pascal, qui est dans notre entreprise, dans notre comité à mission, nous pose régulièrement quand on fait nos comités de mission. Et là, on fait, ah oui, il faut qu'on réfléchisse sérieusement. C'est du coup, il nous dit, mais comment est-ce que vous faites, en fait, voilà, dans le développement que vous allez aller chercher, comment est-ce que vous faites pour assurer que vous êtes toujours dans la mission, ouais.
Dernière question sur l'entreprise à mission et notamment sur l'audit que vous avez passé il y a quelques mois. Le premier audit, c'est toujours un moment délicat, même si j'imagine que chez Terre-Doc, il y a l'habitude de faire des audits, mais l'audit entreprise à mission est quand même un tout petit peu différent parce que c'est pas juste de vérifier est-ce que c'est atteint, pas atteint, etc. Comment est-ce que vous l'avez abordé et maintenant que c'est passé, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises ou des désagréments?
Alors, donc oui, TERDOC est rompu aux audits, hein, parce qu'on fait des audits bio, on fait des audits Fair for Life, des audits for Life, des audits bio partenaires et tout. Donc, c'est rompu aux audits. Sur l'audit entreprise à mission, donc d'abord, ce qui a été difficile, c'est d'abord le choix de son OTI. D'accord ? Parce que ça non plus, comme on était dans les premiers à être passé entreprise à mission, on ne sait pas trop comment ça allait se passer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé différents types d'OTI pour comprendre. Et alors, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous entendez par différents types ?
Bon, pas différents, différents organismes, on va dire, okay. Qui étaient OTI. Du coup, on a travaillé avec un monsieur qui se définit comme le dinosaure de la RSE, qui s'appelle Gérard Schoun, et qui est RSE France. Et du coup, vraiment, quand on l'a choisi parce qu'on sentait qu'il avait aussi un côté très bienveillant et accompagnateur dans cette démarche d'audit. Et donc, du coup, finalement, pour nous, l'audit, ça a été une super phase parce que quand il nous a posé plein de questions, du coup, il nous a aussi challengé sur ce qu'on faisait dans le... dans notre entreprise à mission et plan d'entreprise à mission, et il nous a aidé au cours de l'audit à beaucoup progresser. Par exemple, comme je vous expliquais, on avait plein de labels chez TERDOC, on a pris tous nos plats d'action, on a tout mis dans notre plan d'entreprise à mission. Donc on avait un espèce de plan, je vous jure, au début, avec quasiment 500 lignes d'un fichier Excel d'engagement, en fait, vous voyez, où derrière il y avait un indicateur et tout. Et donc du coup... On a, au début, c'était 500, on a trié, on est arrivé à descendre à 250 lignes, qui était ce qu'on allait présenter, en fait, à l'audit. Et du coup, il nous a aidé, maintenant, pour le futur, à nous dire, bon, mais c'est super vraiment tout ce que vous faites, mais il faut aussi que vous triez et que vous arriviez à définir plus d'actions qui vraiment sont des actions à impact, avec des indicateurs à impact. Et donc, du coup, nous, l'audit, ça a été un moment d'apprentissage aussi pour le futur et pour revoir ce qu'on inscrivait dans notre plan d'entreprise à mission et comment, justement, on allait traiter les prochaines années, les prochains engagements. Donc, l'audit, ça s'est super bien passé, en fait, parce que TERDOC, quand on dit qu'on fait quelque chose, en général, on le fait. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de challenge sur fait, pas fait. Voilà, on a rempli tous nos engagements à 100% et au-delà. Et au contraire, ça a été une phase oui, d'apprentissage pour nous, pour savoir qu'est-ce qui était vraiment important pour nous et qu'on souhaitait mettre en avant dans le futur.
D'accord. Bon, bah, tant mieux si ça s'est, ouais, si coup, ça s'est bien passé.
Et du coup, je recommande aux autres entreprises à mission qui se posent la question du choix de l'OTI de trouver en fait des auditeurs aussi qui peuvent être dans l'accompagnement comme l'a été... Monsieur Schoun, parce que nous, ça nous a fait progresser, en fait.
Oui, c'est vrai que le choix de l'OTI, c'est toujours un choix qui n'est pas évident, et il y a une vraie relation intuitive personnelle. C'est pas juste, encore une fois, c'est pas un auditeur qui vient voir si la case est bien cochée, etc. Il y a cette logique d'accompagnement est quand même potentiellement, alors même s'il y a le code de déontologie, etc., c'est pas du conseil ce qui est fait, mais en tout cas, il y a une logique de questionnement qui peut être riche pour l'entreprise qui est auditée. Alors, on arrive progressivement vers la fin de cet épisode. Donc, j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. En préparant l'épisode, j'ai vu que dans vos plus grandes fiertés que vous mettez sur votre profil LinkedIn. Donc, évidemment, vous listez des succès professionnels, etc. C'est bien normal. Mais il y en a un qui est un peu plus inattendu, qui est une de vos fiertés, c'est de gérer votre équilibre de vie professionnelle et personnelle avec une famille heureuse et des passions personnelles. Alors, pour côtoyer quand même beaucoup de dirigeants d'entreprise, depuis un certain nombre d'années, arriver à faire ça, c'est vraiment hyper difficile. Et donc, la question est simple, quel est votre secret ?
Quel est mon secret ? La famille, pour moi, c'est quelque chose de très important. Comme j'ai dit, femme de tête et de cœur, donc j'ai ma famille, mais maintenant j'ai ma famille TERDOC aussi. On dit comme ça, chez TERDOC, c'est très important, ces relations-là pour moi. Et donc, ma famille personnelle est vraiment très importante. Donc, on fait très attention avec mon mari, qui est aussi dirigeant d'entreprise, à cultiver des moments de qualité, à être avec nos enfants. Voilà, c'est ma priorité. J'appelle ça mes gros cailloux. Je pense que vous connaissez l'histoire des gros cailloux. Sinon, je vous invite à aller lire ce que c'est sur Internet. Les gros cailloux, c'est un professeur qui montre à ses élèves qu'il y a un grand vase. Il met d'abord des gros cailloux et puis il dit toujours, ben, vous voyez, dans le grand vase, on peut tout faire rentrer. Après les gros cailloux, des petits cailloux et puis du sable. Et puis voilà, on peut toujours en mettre plus. Mais la morale de l'histoire, ce qui est le plus important, c'est les gros cailloux, en fait. Voilà. Et moi, les gros cailloux, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon mari, c'est mes proches. Et donc, du coup, je fais très attention à avoir du temps aussi pour eux et à être présente et à passer du bon moment tous ensemble. Voilà. Et puis après, quand vous me parlez de mes passions, parce que j'ai d'autres passions, j'aime faire plein de choses. Voilà, il y a d'autres passions, comme par exemple l'agriculture, le domaine familial que j'ai avec ma famille. On a un domaine dans le Vaucluse, en bio bien sûr, où on cultive des oliviers, des truffiers et plus récemment des pistachiers. Et voilà, et donc une de mes passions, c'est ça. Et on est en train de s'occuper de la relance de la pistache en Provence. Ça serait un autre sujet qui pourrait vous intéresser. Je serais ravie de faire un autre podcast sur ce sujet-là parce que c'est une culture qui a disparu il y a quelques années chez nous et face aux défis climatiques, c'est une culture qui peut être intéressante pour les agriculteurs chez nous. Et voilà, et donc je m'occupe aussi de ça à titre bénévole en plus de Terre Doc. Et voilà, j'ai pas envie de renoncer parce que c'est des beaux projets et voilà, donc je trouve les moyens de m'organiser pour faire tout ça.
Ah bah très bien. Très bien, très bien. Je serais curieux de goûter les pistaches de Provence, alors.
Ben volontiers. Les premières récoltes sont arrivées cette année, après 4 ans de patience, et je pourrais vous faire goûter.
Avec grand plaisir. Pour terminer cet épisode, on va passer au traditionnel instant musical. Donc, c'est le moment pour vous de nous partager un morceau qui a un sens, que ce soit votre coup de cœur du moment, morceau qui vous suit depuis longtemps ou quelque chose qui résonne avec toutes les thématiques qu'on a pu aborder. C'est quoi pour vous ?
Alors, le morceau, c'est The Love Boat. Vous voyez, la croisière s'amuse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, donc, jusqu'à très peu de temps, je co-dirigeais l'entreprise avec une personne formidable qui s'appelle Vincent Cavaillès. Voilà, qui est parti à la retraite. Et du coup, donc, très récemment, c'est un fou de voile. Et donc, pour fêter son départ, j'avais organisé une surprise pour lui et tous les salariés sur une magnifique goélette à Marseille qui s'appelle le Don du Vent, qui est une goélette ancienne, toute en bois, magnifique dans les Calanques. Et donc, on est parti faire une journée en mer tous ensemble dans les Calanques. Et à la sortie de cette journée, il y a Noël chez nous qui a fait un joli petit film avec cette musique-là, The Love Boat. Et c'était un moment génial en famille, Terre Doc, pour célébrer le départ de Vincent et tous ensemble sur un bateau, comme tous ensemble embarqués dans l'aventure Terre Doc.
C'est génial. C'est un super moyen, de caractériser tout ce que vous avez pu exprimer pendant cet épisode-là. On va l'écouter. It floats back to you. Merci beaucoup Laure pour ce choix musical et pour ces propos que j'ai trouvé très humains, avec beaucoup d'humilité aussi, alors que comme vous le disiez même avant qu'on lance l'enregistrement pour cet épisode, Terre Doc fait énormément de choses, et des fois c'est pas mal de communiquer aussi sur tous les efforts qui sont faits.
Ça me fait penser, j'ai envie de dire, une de mes grandes fiertés sur l'entreprise à mission 2 ans après, c'est que d'abord, il y a Nature et Découverte qui nous a observés et qui est passé lui-même entreprise à mission. Et 2, c'est que en fait, on se fait solliciter tout le temps. C'est incroyable. Je rencontre des gens, je parle de la démarche d'entreprise à mission. Et vous voyez, là, en l'espace de 15 jours, J'ai passé un samedi matin à expliquer à un groupe d'entrepreneurs qui sont en train de se lancer dans une entreprise comment démarrer directement entreprise à mission. Il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'ai rencontré une autre entreprise de Paris sur un salon qui était entreprise à mission et qui savait pas comment avancer. Il était en train de déposer ses statuts, mais après, il savait pas concrètement comment il allait mettre en place le truc. Et donc, du coup, j'ai passé mercredi une heure avec lui, en fait, à lui expliquer comment on faisait chez Terdoc. C'était génial. Il a vu plein de synergies et du coup, il a dit, ben voilà, c'est super. Je vais... Voilà, il y a une transmission aussi. Vous m'avez posé la question tout à l'heure de la transmission. Donc, il y a eu cette transmission de l'ADN de Valérie avec moi au travers de l'entreprise à mission. Mais aujourd'hui, moi, ce que je trouve génial dans l'entreprise à mission, c'est que moi, je passe du temps à transmettre à d'autres entrepreneurs, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent devenir eux-mêmes entreprise à mission. Voilà. Et du coup, on trouve une solidarité naturelle, en fait. Au plus on en parle, au plus on s'aperçoit qu'il y a des gens qui veulent y aller. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est d'arriver à un peu les aider, quoi.
Bah, tant mieux si vous prenez ce temps, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est un vrai sujet, hein. De toute façon, ça n'essaimera que aussi par le contact de pair à pair, les retours d'expérience. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce temps, et j'espère que ce sera entendu et partagé par le plus grand nombre de personnes pour découvrir un petit peu tous les engagements que l'entreprise peut mener de front. Donc un grand merci à vous et je vous dis à bientôt.
À bientôt Vivien, merci beaucoup.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager à votre réseau et en plus, je sais, j'en demande beaucoup, à noter l'épisode ou le podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment important pour en améliorer le référencement. Également, si jamais vous avez des idées d'entreprises à mission que je pourrais interroger ou des recommandations d'experts thématiques qui vous ont vraiment marqué, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou directement par email à vivien@lamachineascence.fr. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine rencontre.